vous rappelle la proposition parce que on avait décidé de couper comme ça parce que après ce que Patrick Rayou nous avait dit sur l'installation de la difficulté, la question de la difficulté pour les enseignants, la forme scolaire, les malentendus, la difficulté pour l'enseignant à concilier son identité biographique et son identité relationnelle, on était arrivé à la minute 28.
Pour pouvoir être apprivoisé, je dirais, et pour lesquels nous pensons, sans parler de recettes, mais qu'il y a des manières de les problématiser, de les approcher.
La question redoutable pour les enseignants, c'est bien cette question de la mise au travail des élèves, parce que vos analyses font que ce n'est pas des questions subsidiaires. La question de l'engagement dans le travail, il n'y a pas de négociation à faire avec ça, même en éducation prioritaire.
Oui, oui, en effet, l'idée qui est sous-jacente de tout ça et qui apparaissait d'ailleurs dans un édit, c'est que pour nous, si les élèves se comportent mal, c'est d'abord parce qu'ils n'apprennent pas et parce qu'ils n'ont pas de gratification dans les apprentissages. Alors que souvent, en inverse, du point de vue de l'adulte et de la perspective, on pense qu'ils n'apprennent pas parce qu'ils se comportent mal. Donc, faisons qu'ils se comportent bien et ils apprendront. Malheureusement, la recette n'est pas aussi simple et efficace. La question du travail, elle est importante parce que dans les attentes contemporaines de l'école, l'idée que l'élève idéal est un élève autonome est une idée absolument centrale. Le fait comme on a pu le faire dans des éducations antérieures plus prescriptives, qui étaient plus reproductrices, aujourd'hui nous avons abandonné ces schémas. Je crois qu'on peut s'en réjouir, parce qu'on ne voit pas pourquoi seules les élites devraient être confrontées à des curriculums qui permettent aux gens d'avoir des opinions, de penser, de réfléchir, etc. Néanmoins, il y a un prix à payer de tout ça. Hein. Il y a une construction. Et un des aspects du système scolaire, qui fait l'objet de malentendus assez profonds selon moi, c'est le fait que ce travail, comme le montre le petit texte de Bruno Pousset, hein, qui fait l'œuvre d'historien des devoirs à la maison, le fait que ce travail a été historiquement de plus en plus externalisé. C'est-à-dire que nous sommes dans un système, dans notre pays, dans lequel il y a une sorte de division du travail, les enseignants font la leçon et les élèves écoutent d'une certaine manière. C'est pas toujours comme ça, parfois des élèves sont en activité évidemment, mais là je prends le schéma le plus classique et sans doute le plus répandu. Et le travail autonome des élèves est un travail qui s'effectue en général à l'extérieur de la classe, souvent à l'extérieur de l'école, aujourd'hui dans un nombre de lieux importants, hein, la maison mais pas seulement, et il s'effectue hors du regard de l'enseignant et hors de ses possibles conseils. On peut aggraver l'analyse en disant qu'il s'effectue parfois avec des conseils d'autres intervenants qui ne sont pas eux-mêmes forcément en phase avec ceux des enseignants, qui ignorent le moment de la progression dans lequel on se retrouve. Voilà cette espèce de division du travail extraordinaire qui mobilise, d'un point de vue de l'économie de l'éducation, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, avec des résultats dont on sait aujourd'hui qu'ils sont extrêmement modestes. Donc, dans ce travail externalisé, on s'est rendu compte, j'ai fait avec d'autres collègues une enquête là-dessus, on s'est rendu compte que les enseignants eux-mêmes visaient à travers les devoirs qu'on appelle devoirs à la maison des choses différentes. Hein. Il y avait ce qu'on voit sur le schéma et dans les détails desquels je n'entre pas. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que le schéma va des choses extrêmement spécifiques. Il y a des travaux très particuliers, très précis qui sont donnés aujourd'hui pour demain ou pour la semaine prochaine, vers des objectifs qui sont plus génériques. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'ai distingué trois types, des types d'exercices et puis la posture, pour employer un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Si on regarde le type 1, c'est ce que les enseignants nous ont dit, voilà les devoirs, en particulier à l'école primaire, c'est bien commode parce que nous savons que mémoriser une leçon qui a été apprise dans la journée, une notion, enfoncer le clou, comme disent certains, c'est tout à fait important. Hein. Je crois que les cogniticiens ne les contredisent pas. Et d'ailleurs, d'expérience, nous le savons nous-mêmes. C'est l'idée qu'on va conserver à l'identique quelque chose qui a été acquis, de manière à ce qu'il revienne dans la classe, hein, conservé, ou pendant les vacances, c'est-à-dire dans toutes les périodes de rupture où la forme scolaire n'est plus là avec sa proximité, que ça revienne conservé. Et donc, les petits exercices qu'on donne, ça sert à ça. Mais, nous disent les enseignants, et c'est là où le fossé commence à s'élargir avec certains élèves, bien évidemment pour eux, s'exercer, c'est aussi une certaine manière non seulement faire cet exercice, mais apprendre à apprendre. C'est-à-dire être capable de transférer sur d'autres objets des schémas de raisonnement, des concepts que l'on a pu apprendre, et les exercices servent à ça. Faut en faire un exercice, c'est pas juste s'acquitter de la tâche de faire les trois travaux qu'il y avait à faire pour demain, c'est prendre l'habitude de s'exercer, et du coup, c'est le troisième type, hein, qui est le type supérieur, c'est se développer soi-même dans les apprentissages, apprendre le goût de l'effort, et finalement être presque en état de manque s'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas que les universitaires qui sont dans cet état-là, on peut supposer que les élèves prennent un plaisir intellectuel à s'exercer, et on le souhaite, et c'est tant mieux quand ça arrive. C'est pas le cas pour tous les élèves, pour lesquels les devoirs prennent surtout la signification de l'obligation, hein, et du pensum, au lieu d'être cette manière d'être soi dans les apprentissages.
Et le niveau 2 et le niveau 3 prennent d'autant plus d'importance dans le travail personnel que les exigences en matière de curriculum, de littératie, etc. sont de plus en plus élevées.
Tout à fait. Et c'est ce qui permet d'expliquer que les élèves polis et gentils dont je parlais au début de la séance ont tendance à en rester à ce type 1 et ne comprennent pas, puisque le contrat didactique n'est évidemment pas explicite, ne comprennent pas que, alors qu'ils ont bien fait leur mémorisation, ils vont avoir des notes qui sont de moins en moins satisfaisantes.
Ce qui peut expliquer certaines explosions surprenantes à la fin de la cinquième, lorsque, une fois qu'on a passé beaucoup de temps à s'acquitter de ces tâches, on ne comprend pas pourquoi on ne réussit pas.
Absolument, je veux dire, les élèves sont comme tout être humain normalement constitué. Ils ne vont pas pouvoir accepter, peut-être les garçons encore plus, parce qu'ils ont une fierté qui est aussi le fruit d'une éducation, accepter d'avoir des séries de mauvaises notes, puisque si l'on se convainc que les notes évaluent l'identité personnelle, avoir des mauvaises notes, c'est qu'on est nul. Hein. Dubé a fait ses descriptions d'élèves qui se comportent comme des caïds à l'école parce qu'ils sont réputés nuls à l'école, mais ils sont grands dans la cité. Hein. De ces filles qui se fardent outrageusement, ils mettent du rouge à lèvres et ça pour montrer qu'elles sont grandes de notre point de vue, parce qu'il est très difficile de supporter que l'école vous dise que vous n'êtes rien. D'autant que nous sommes dans une école dans laquelle on reste longtemps. La perspective de l'apprentissage, qui est celle de l'époque de Jeanine Rovet, et qui libérait des élèves de cette pression-là, n'existe plus aujourd'hui, ou alors elle est de seconde main, je dirais, c'est presque une punition, et ne permet pas de développer des identités positives, en tout cas rarement.
D'où le travail que tu mènes avec d'autres équipes sur, finalement, si on comprenait mieux ce qui soutient le travail des élèves, peut-être qu'on serait mieux en capacité de fabriquer cette interaction dans la classe et hors la classe de manière plus efficace.
Oui, c'est ça, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, et c'est ce qui apparaît dans ma modeste conclusion. Nous essayons aujourd'hui de décortiquer un petit peu ce que c'est le scolaire. Parce qu'évidemment, tout le monde sait bien ce qu'est l'école, parce qu'il y a été, il y a des enfants. C'est bien le drame, c'est que quand on connaît bien les choses, on croit les comprendre, c'est pas forcément le cas. Il nous semble, dans les travaux que nous faisons aujourd'hui, sur des dispositifs de remédiation, les micro-lycées, ou des dispositifs pilotes de l'éducation prioritaire comme les internats d'excellence ou d'autres structures, l'hypothèse que nous faisons, c'est que la sphère scolaire, elle est elle-même tissée de plusieurs composants, de plusieurs sphères que vous voyez là. Évidemment, à l'école, on apprend, c'est donc la cognition. Mais évidemment, il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend. Donc l'école va importer dans son sein des manières de connaître. Différentes époques importent différentes manières de connaître. Aujourd'hui, en France, si on fait de la biologie, on importe plutôt des théories darwiniennes ou néo-darwiniennes. Hein. On a le droit de dire qu'il n'y a pas de créateur, et on trouve que c'est normal. D'autres systèmes n'admettent pas ce principe-là. Donc, il y a une manière de connaître, qui se traduit aussi par la laïcité, qui est la manière scolaire d'apprendre. Mais à l'école, il y a aussi des éléments qui ne viennent pas seulement des mécanismes cognitifs ou des sciences, mais qui peuvent venir des pratiques culturelles. Il y a par exemple des pratiques sportives dans la société. L'école va les importer, va les transformer, ce qui fait qu'à l'école on ne fait pas du sport, on fait de l'éducation physique et sportive. C'est difficile pour certains élèves garçons en particulier de comprendre que l'éducation physique et sportive, c'est pas marquer des buts, pour dire les choses de manière un peu brutale. Donc il y a ce travail de transformation. Et puis il y a ce troisième registre qu'on appelle de l'identité symbolique, c'est-à-dire que pour être à l'école, être scolarisé, il faut non seulement avoir des manières d'apprendre particulières, il faut non seulement avoir un bagage culturel particulier, qu'on va parfois appeler culture générale, qui est cette réalité un peu impalpable, mais il faut aussi se comporter d'une certaine manière, c'est-à-dire être un certain type de sujet connaissant, qui va accepter que des règles sont au-dessus de lui. Durkheim et les sociologues classiques nous disent déjà, voilà, le petit enfant qui va à l'école, il faut qu'il apprenne qu'il ne va pas être récompensé parce qu'il est le plus petit. Il faut qu'il apprenne qu'il va être récompensé parce qu'il a su faire l'exercice, parce qu'il s'est plié aux mêmes règles que les autres, auxquelles d'ailleurs se plie l'enseignant lui-même. Voilà. Il faut donc être une espèce de sujet académique, hein, engagé dans la tâche, et qui attend certains types de récompenses bien particuliers, souvent des récompenses très 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 lointaines, hein, qui sont difficiles à imaginer pour des élèves pour lesquels la culture familiale, par exemple, exige des gratifications immédiates, tangibles et visibles. Donc, il nous semble, nous, que soutenir les élèves, ben, c'est pas les soutenir indifféremment, et qu'on peut les soutenir en fonction de ces registres.
Et du coup, ça me fait penser à trois objectifs aussi de l'école, qui sont... transmettre la culture, outiller le cognitif et développer l'estime de soi au sens « c'est aussi pour toi ce chemin scolaire ». Il y a là sûrement dans l'articulation entre ces trois leviers des pistes qui peuvent être fécondes pour que le questionnement collectif des enseignants sur qu'est-ce qu'on fait dans ces trois dimensions puisse permettre de nourrir l'activité. Oui.
Ce qui nous semble important, c'est que ces trois dimensions, elles doivent être en permanence conjointes, parce que sinon le régime scolaire s'effondre. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y a des endroits dans lesquels on décide, au fond, les élèves n'apprennent pas bien la grammaire, les conjugaisons, les mathématiques, on va leur faire voir des belles choses. Voilà, on peut les immerger dans un monde culturel qui va leur plaire, qui va les gratifier, mais l'exposition au savoir culturel, pas plus que l'exposition au savoir cognitif, ne suffit plutôt aux élèves pour qu'ils le métabolisent et pour qu'ils en fassent des instruments scolaires. Si on ne travaille pas en même temps l'identité qui va avec, on risque de passer du bon temps, hein, et au fond, il vaut mieux passer du bon temps que du mauvais, et que ces élèves soient dans la rue pour faire des bêtises, comme on le dit souvent, mais il peut y avoir là des effets de leurre, hein, de la même manière, si on leur donne que des méthodologies d'apprentissage, qu'ils comprennent le sens culturel que ça a, et ce que ça signifie pour eux-mêmes, il y a là des manières de dépecer, au fond, de dessécher la sphère scolaire. Nous regardons ça maintenant. Il y a des cas, par exemple, je m'arrêterai là, lorsque nous avons travaillé sur les internats d'excellence, vous savez, le principe des internats d'excellence, c'est qu'on prenait des élèves de milieux en général défavorisés, dont on estimait que leur entourage, le milieu de vie, les empêchait de réussir à la mesure de leur capacité. On les faisait internes et du coup, ils avaient accès à des établissements de bon, voire de très bon niveau. On s'est rendu compte assez rapidement que pour une bonne part de ces élèves qui avaient déjà des bons niveaux scolaires, le fait de leur donner de la culture, de les parrainer avec l'opéra, le fait de les requalifier symboliquement en leur montrant qu'ils pouvaient être avec des élèves de l'élite scolaire et en participer eux-mêmes, avaient des résultats absolument spectaculaires. Mais jouer sur ces élèves-là, en priorité sur l'identité symbolique, ne peut se faire que parce qu'il s'agit d'élèves qui n'étaient pas à la traîne du point de vue des apprentissages fondamentaux et qu'eux-mêmes, ils étaient un peu en sous-régime parce qu'ils vivaient dans des milieux dans lesquels ils ne faisaient pas bon montrer qu'on était de très bons élèves. Donc il n'y a pas de recette magique. L'overdose culturelle, la méthodologie désincarnée à outrance ou le coaching pour développer l'estime de soi peuvent être évidemment trois dimensions qui vont vivre des vies séparées et ne vont absolument pas réussir à transformer et à agir sur les difficultés des élèves.
Au moment où la refondation de l'éducation prioritaire se met en marche, et c'est une des thématiques qu'on va travailler, qu'est-ce qui te semble le point important, sinon essentiel, qui, du point de vue du travail collectif, de la formation, peut être un levier pour ces enseignants et ces élèves de l'éducation prioritaire ?
Oui, alors dans la conclusion, on n'aura pas le temps de le voir, mais les stagiaires pourront, à compte d'auteur, aller voir cette excellente plateforme de formation qui est Néopass, où j'avais éventuellement pensé à l'exemple de Guillemette, qui est une jeune enseignante, qui dit, ben, finalement, mes élèves de 3e, ils ne lisent pas chez eux. Je vais prendre le risque de les faire lire en classe. Elle les met devant un texte de Primo Levi, pas facile, devant un A3. Les élèves sont totalement incrédules au début, ils disent, mais vous allez nous faire lire ça, vous sans entendu, vous n'êtes pas du club, vous ne savez pas où vous êtes. Et le miracle se produit, les élèves se prennent au piège de ce texte magnifique, voilà, sont attentifs, posent des questions. Il n'y a pas eu de baguette magique, hein. Il y a eu le fait qu'elle au cours de son cheminement, fini par comprendre le rapport qu'il y avait entre travail des élèves, travail autonome, travail externalisé et ce qu'elle faisait dans la classe. Pourquoi y est-elle arrivée? Sans doute parce que, d'une part, elle a sa réflexion personnelle et les enseignants non, mais il nous semble de manière plus générale que ce n'est que par le croisement des analyses sur ces points vifs hein, de l'enseignement qu'on peut arriver à progresser. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est à la fois inquiétant, évidemment, c'est que le système scolaire, aujourd'hui l'exercice du métier, montre de nombreuses difficultés, mais ce qui est rassurant, c'est que ces difficultés, si on veut bien les dépouiller de leurs caractéristiques singulières, elles sont globalement les mêmes. Elles sont comment fait-on que des élèves entrent dans la forme scolaire? Et pour ça, il n'y a pas des recettes, mais il y a des manières de construire les séquences. Et on peut accéder à ça par les échanges. Alors ça peut être de multiples natures. Cette plateforme-là, on propose, hein, puisqu'elle va confronter des points de vue de néo-titulaires, des points de vue de chevronnés et des points de vue de chercheurs, avec l'idée que la vérité n'est évidemment ni dans les propos des uns, ni dans les propos des autres, ni absente des propos de quelques-uns ou de quelques autres, mais qu'elle est dans la façon dont ces croisements de regards, avec des années de décalage, avec des angles différents d'analyse, peuvent faire regarder différemment les mêmes objets. Lorsqu'avec Luc Ria, nous avons commencé à concevoir cette plateforme, cela venait d'une enquête que nous faisions qui s'appelait « Entrer dans le métier » où des jeunes enseignants se formaient par la co-observation. Et cette expérience-là, malheureusement très tôt avortée, nous paraissait extrêmement intéressante parce que les jeunes qui s'auto-observaient choisissaient les circonstances de la co-observation. Ils décidaient que c'était dans la même discipline, avec une autre discipline, avec les mêmes élèves, pas les mêmes élèves. Donc ils faisaient varier les choses et ils essayaient de faire émerger le typique. Et ce qui nous a frappé dès le début, c'était l'acuité de leurs analyses et parfois la dureté des propos qu'ils pouvaient tenir les uns sur les autres, des propos, je dirais, de professionnels, propos qu'ils n'auraient jamais souhaité entendre de la part d'une autorité hiérarchique quelconque ou des formateurs de l'IUFM. Dans ce dispositif-là, les formateurs de l'IUFM venaient à la demande des jeunes et répondre à des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre eux-mêmes ou ils leur permettaient de confronter devant eux des hypothèses. Ce qui veut dire que l'idée de formation en établissement me paraît aujourd'hui quelque chose de tout à fait important. On sait que la formation continue lorsqu'elle est faite dans des disciplines hors de l'établissement, avec des gens qui sont un peu enthousiastes, qui sortent de leur bahut ordinaire, mais qui, lorsqu'ils reviennent, se retrouvent avec des gens assez incrédules qui n'ont pas eu la même formation, ça se dilue très rapidement et les effets formatifs sont assez faibles et les effets transformatifs sont aussi très faibles. Donc je crois que oui, l'idée de faire des formations en établissement qui ne soient pas des formations d'établissement, parce qu'on pourrait discuter de cette notion, est sans doute une piste tout à fait importante, à la fois parce qu'elle accroît la confiance des formés. On ne leur en raconte pas, on ne leur en compte pas, parce qu'ils peuvent voir comment se comportent les autres professionnels, ils savent, parce qu'on sait dans un établissement tout ce qui se passe. Et puis, le fait de déplacer généralement sa propre pratique et de regarder ce qu'il peut y avoir de typique permet de purger un peu, je dirais, les pincements les plus personnels que les échecs d'enseignement peuvent occasionner et de regarder tranquillement les aspects les plus professionnels, les plus récurrents, acquérir au fond un soi professionnel qui n'est pas un soi de l'indifférence, mais qui est un soi dans lequel on sait que si on est agressé par des élèves, par exemple, c'est pas soi-même dans sa personne individuelle qu'il est, c'est un système, une connaissance qui ne passe pas, etc.
Mais alors, l'établissement formateur, l'établissement apprenant, c'est des choses qu'on entend régulièrement, mais à quelles conditions? Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de genèse particulière, on ne voit pas d'évolution actuelle vers quelque chose qui se développerait dans les établissements, qui ferait que les établissements deviendraient apprenants. Je ne sais pas si tu acceptes le terme.
Oui, moi je l'accepte volontiers. Après, il faut voir ce qu'on met dessous. Et, je crois qu'on n'a pas non plus beaucoup réfléchi à la question, mais précisément, piloter l'éducation prioritaire, pour moi, c'est sans doute, et d'abord la piloter par la formation, mais pas une formation top-down, comme on dit parfois, qui descend et qui est inadaptée aux situations. Non pas qu'elle n'ait rien à dire, cette situation-là, parce qu'elle permet de construire des cadres, mais elle doit nécessairement être complétée par des formations de proximité, qui ne soient pas des formations pour des publics que l'on va traiter au rabais, hein, qui soient des formations exigeantes sur le curriculum, qui ne lâchent rien, mais qui s'intéressent aux véritables conditions, aux véritables contraintes de situation. Alors aujourd'hui, c'est guère rendu possible. On peut imaginer que les nouvelles générations d'enseignants, si elles ont été formées à la recherche, ce qu'on souhaite vivement, vont avoir davantage cet esprit de typologie, de problématisation. On peut espérer aussi que les écrits de ces jeunes vont circuler, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de littérature professionnelle. Ce qui est assez dramatique, c'est que les savoirs d'action qui sont parfois découverts dans les établissements disparaissent aussi rapidement qu'ils ont été trouvés. Il y a une forte rotation dans ces établissements, ça n'est fixé nulle part. On pourrait imaginer qu'il y ait une animation académique, pédagogique qui retienne quelque chose de ça, que l'inspection se saisisse aussi de ça. Il serait tout à fait intéressant, il y a quelques travaux, mais pas très nombreux, de regarder ce qu'échangent les jeunes sur les forums extrêmement nombreux dans lesquels ils sont aujourd'hui. Parce que sur le mode de l'horizontalité, ils acceptent de dire des choses qui leur tiennent à cœur. Le problème, c'est que l'institution doit à un moment donné apporter une dimension plus verticale, celle des savoirs établis, celle des exigences d'une institution, et que là, ce raccordement a du mal à se faire parce qu'il se produit aujourd'hui dans des mondes qui sont très largement séparés, voire qui se dénoncent l'un l'autre.
Aussi séparés que le monde des élèves et le monde des enseignants.
Aussi séparés que le monde des élèves et des enseignants. Moi, ce qui me semble, c'est que ça devrait faire un terrain d'entente, c'est que la souffrance des élèves et la souffrance des enseignants, elle a quand même très largement la même matière. Je me dis qu'autour de ça, on devrait pouvoir arriver à tomber davantage d'accord.
Merci Patrick pour avoir passé du temps avec nous et je crois que les stagiaires apprécieront le temps que tu as pu prendre avec eux. Merci encore à toi.
Merci à vous tous.